Bienvenue. Vous entrez dans la zone.
À ta zone de confort, à ta zone de génie.
Toi, tu laisses place à ta créativité. Il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis.
Une porte ouverte sur un monde enchanté.
Tu lis quoi, toi?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout.
Des petits tas dans ma chambre,
des petits tas dans
ma bibliothèque, c'est...
Lire,
c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi?
Je contemple, j'écris, je lis. Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club de la Zone, le book club pour les créatives qui aiment lire et raconter des histoires. Alors non, le book club n'a toujours pas de nom. Mais aujourd'hui, on va parler de récits, de narration. Comment on raconte une histoire et pourquoi est-ce que nous les aimons autant? Mais avant, il faut que je vous confie quelque chose. Quand j'étais enfant, et puis ensuite adolescente, dès que je finissais un livre, ou que je sortais du cinéma, j'allais m'enfermer dans ma chambre en rentrant chez moi, et j'inventais un monde dans lequel j'étais l'héroïne. Les dialogues défilaient dans ma tête, je mimais les scènes d'action, j'incarnais pour de vrai les personnages. Ma chambre était une scène de théâtre, et mon esprit un univers à part entière, sans limite. Le fait de voir, ou de lire, ou d'écouter une histoire, m'inspirait et me plongeait dans une agréable spirale d'invention, de rêve et de magie. Jusqu'à aujourd'hui même, alors que je suis une grande enfant de 29 ans, les formulettes ont toujours le même effet sur moi. À la lecture du fameux «
Il était une fois »,
je me cale dans mon siège,
dans un royaume lointain,
ou alors je me love dans ma couette, bien assise dans mon lit, et je fourmille d'attention et d'excitation. Je m'apprête à entrer dans un monde, comme le faisait ma mère avant moi, et sa mère avant elle. Ma mère m'a raconté récemment d'ailleurs qu'au Togo, le conteur qui passe de village en village s'adresse à son auditoire comme ceci. « Voici mon nouveau conte. » Et l'auditoire de répondre « Bienvenue à ce nouveau conte. » Et puis le conteur poursuit le conte va commencer par l'histoire. Ces formulettes sont une porte d'entrée sur l'imaginaire. Les griots, griottes, conteurs s'en servent pour capter l'attention de l'auditoire et attendre le silence pour débuter le conte. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles existent partout dans le monde, ces formulettes. Un petit tour sur Internet et vous trouverez des contes et des fables de partout dans le monde. Donc le conte est universel. Et avant de devenir des livres, ces histoires se transmettaient de siècle en siècle, de génération en génération, par la parole. Les griots d'Afrique de l'Ouest, par exemple, dont je suis originaire, twistaient parfois la fin d'une histoire, ou ajoutaient de la narration, des éléments, des détails, des anecdotes à certains contes. Ce qui fait qu'il existe une multiplicité de fins à une seule histoire, ou même des histoires dans les histoires. Les récits s'influencent les uns les autres, et muent à travers le temps et les territoires. Par exemple, s'il y a un recueil de contes dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est bien sûr les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, c'est d'abord l'histoire de Scheherazade, fille d'un vizir qui est mariée de force à un sultan tyrannique et cruel qui assassine ses femmes après seulement une nuit à leur côté. Pour échapper à ce sort funeste, Scheherazade invente un malin stratagème. Chaque nuit, elle racontera une histoire au sultan et en commencera une autre. Ainsi, celui-ci devra la garder en vie pour entendre la suite de l'histoire. Et Scheherazade ne se contente pas de raconter des histoires les unes à la suite des autres. Parfois, l'un de ses personnages raconte lui-même une histoire dans laquelle l'un de ses personnages en raconte une aussi. Les Mille et Une Nuits sont en fait une véritable école du conte, en quelque sorte. Pourtant, les 5 tomes qui forment aujourd'hui ce recueil de contes sont bien différents de ce qu'ils étaient à la base. Sur sa chaîne YouTube, l'histoire nous le dira, Laurent Turcot, qui est professeur d'histoire, raconte que sa provenance est d'ailleurs assez floue et mystérieuse. Les contes des Mille et Une Nuits seraient d'origine sassanide et n'auraient été traduits en arabe que plus tard, entre le 8e et le 9e siècle. Les peuples arabes ont ensuite transformé plusieurs contes pour les adapter à leur contexte et à leur époque, afin de divertir et glorifier les princes tout en éduquant sur des principes et des valeurs morales. Les Mille et Une Nuits telles qu'on les connaît aujourd'hui ont en fait été réécrits un millénaire après l'écriture des premiers recueils arabes et importés en Europe grâce à Antoine Galland au XVIIIe siècle. Il les a traduits et il les a lui aussi adaptés au contexte et aux valeurs, mais cette fois françaises. Bon, on reste dans un book club, je ne vais pas vous faire l'histoire complète, mais je vous recommande d'aller voir la vidéo de Laurent Turcot si cela vous intéresse. Le lien est en description de l'épisode. Mais pourquoi choisit-on le récit pour éduquer et divertir? Qu'est-ce que les histoires ont de si magique pour nous attirer autant? Pourquoi les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires? Et pourquoi est-ce que, secrètement ou non, on prend plaisir à les leur raconter, à les lire ou à les regarder aussi? J'aimerais croire à une certaine forme de magie, et peut-être qu'il y en a une par ailleurs, mais c'est tout simplement parce que notre cerveau aime la répétition, les habitudes et tout ce qui lui est familier. Et toute histoire bien construite contiendra toujours, toujours, toujours un personnage, un environnement ou une période ou un contexte comme par exemple Noël, les fêtes de fin d'année, un problème, un conflit et une résolution. 5 éléments qui, lorsqu'ils sont agencés de façon plus ou moins dense ou complexe, créent les histoires que nous lisons, que nous racontons et que nous perpétuons. On répète ces histoires, on les transforme et on en invente d'autres, parce qu'elles en disent toujours plus sur nous que sur l'histoire elle-même et ses personnages. Elles nous permettent une introspection de nous-mêmes et des relations que l'on entretient avec l'autre. Elles suscitent des émotions familières. Elles décrivent un état, un environnement ou une situation que nous ou une personne que nous connaissons a déjà traversée. Elles nous font nous sentir moins seuls. Elles nous font nous sentir compris. Elles nous ramènent, par le plaisir de la fiction, à la réalité de notre condition humaine. Bref, c'est pour toutes ces raisons qu'on aime les histoires. Elles ont un effet cathartique. C'est pour ça d'ailleurs que l'art de la scène est toujours aussi populaire aujourd'hui. Depuis les scénettes de rue de la Commedia dell'arte au stand-up contemporain, en passant par le Kamishibai, c'est un théâtre de marionnettes miniatures originaire du Japon. J'ai découvert cela il y a peu et je suis un peu obsédée depuis. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain book club, même si je suis en train de me dire que ce serait peut-être un peu hors sujet. Dans mon enfance, un des premiers grands romans que j'avais lus pour mon âge, c'était La Princesa et le Capitaine, d'Anne-Laure Bondou. C'est une autrice très connue dans la littérature jeunesse francophone. L'histoire se passe des siècles avant notre ère, dans un pays et un monde imaginaire. À 15-16 ans environ, la Princesa est promise à un prince d'une autre contrée dans le but d'allier deux dynasties et de renforcer la puissance du royaume. Mais la Princesa rêve d'aventure, de liberté, et elle aime écrire. Elle va donc fuir son destin et se lancer dans un long voyage, un long périple, où elle va rencontrer des peuples, bienveillants ou hostiles, vivre des aventures dangereuses et palpitantes, nouer des amitiés. Et bien sûr, elle a son love interest, parce que sinon je n'aurais pas ouvert le livre à cet âge-là. Et ensuite, elle revient chez elle, pour affronter un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. C'est un récit initiatique sur le fait de grandir avec tous les changements inexorables que cela implique. Il s'agit de faire face à ses responsabilités. Et c'est aussi un récit sur l'amour, le deuil, l'amitié et la loyauté. Et pourquoi est-ce que j'ai tant aimé cette histoire? Parce que je me suis reconnue dans la Princesa. Non pas parce que je suis une princesse et que j'étais promise à mes 16 ans à un prince d'une autre contrée, mais parce que, à travers ces aventures, j'en apprenais sur moi, sur le monde réel, tout en me donnant le droit de m'évader dans l'irréel. Et c'est toujours sur cela que repose le récit, un va-et-vient constant pour ouvrir une fenêtre sur le réel. Un peu plus tard, quand j'étais au lycée, j'ai lu une saga qui m'a complètement retourné le cerveau. Elle s'appelle Cathy's Book, tout simplement. C'est une série en 3 tomes écrite par Shane Stewart. Cathy, c'est une adolescente qui vient de se faire larguer par son copain sans explication. Oui, vous m'avez bien cerné. À chaque fois qu'il y avait un synopsis avec une histoire d'amour derrière, je plongeais la tête baissée. Donc Cathy se fait larguer par son copain sans explication. Et par grand désespoir, et une once de toxicité peut-être, Cathy va fouiller dans les affaires de son ex et va peu à peu découvrir la vérité, ou plutôt un mystère, surnaturel et fantastique à propos de lui. Et il est bien loin d'être celui qu'elle imagine. L'histoire d'amour, c'est en fait un peu un prétexte. C'est surtout une véritable enquête et un livre d'aventure avec un soupçon de surnaturel. J'avais adoré. Et en plus, l'originalité de cette saga, c'est que chaque livre est imprimé comme un véritable journal de bord, avec des sketchs de Cathy au crayon et à l'aquarelle, des notes faites à la main, des dessins et des ratures tout au long des pages. Il y a aussi une pochette au début du livre, avec des objets, des photos, des papiers administratifs comme des actes de naissance ou de décès. Tout ça réuni par Cathy lorsqu'elle a fouillé dans les affaires de son ex. Et il y a même des numéros de téléphone qui mènent à une boîte vocale où l'on peut entendre des vrais messages enregistrés par les personnages. La 4e de couverture du 1er tome, c'est en fait un message de Cathy. Il me semble que c'est un post-it d'ailleurs. Et elle nous prévient, si vous trouvez ce carnet et que vous n'êtes pas Emma, Emma c'est sa meilleure amie, déposez-le tout de suite. Étant donné que je m'appelle Emmanuel, je me suis tout de suite sentie concernée. Et évidemment que notre curiosité sera plus forte, évidemment que l'on va s'impliquer et mener l'enquête avec Cathy comme si tout cela était réel. Alors si je vous raconte tout ça, ce n'est pas juste pour plonger dans ma nostalgie, mais simplement pour vous montrer que l'histoire de départ de Cathy n'est pas si différente de celle de la Princetta et le Capitaine. Dans un environnement et un contexte donné, une jeune femme part à l'aventure parce qu'elle a un problème qu'elle tente de résoudre. Et pour cela, elle va devoir passer par plusieurs conflits pour résoudre ce problème et au passage évoluer en tant que personnage. Et on évolue en même temps qu'elle. Ou du moins, on peut faire preuve d'introspection en même temps qu'elle. On y retrouve donc les mêmes perpétuels éléments de construction d'une histoire. Et ça, le cerveau adore. Cathy's Book a un style particulier de genre littéraire. Ça s'appelle la réalité alternée, ou littérature interactive. Ça nous permet d'être complètement et émotionnellement immergés dans l'histoire, d'en faire notre réalité. Et aujourd'hui, raconter des histoires, réelles ou non, prend des formes multiples qui nous impliquent émotionnellement plus que jamais. Parce que la ligne qui sépare la fiction du réel est encore plus mince, voire quasi inexistante. Et ça, c'est grâce à Internet. Oui. Internet a multiplié les supports nous permettant de raconter des histoires et a aussi permis de multiplier les conteurs et les griottes. Les blogs, les fanfictions, les podcasts, les threads Reddit ou Twitter, les vidéos YouTube bien sûr, avec le fameux format Storytime, mais aussi d'autres formats comme le True Crime ou le Mystery and Makeup popularisé par la créatrice Bailey Sarian sur YouTube. Et enfin, il y a le format vlog, où l'on suit nos créateurs et créatrices de contenu préférés évoluer dans un monde qui est aussi le nôtre, et avec qui on noue une relation parasociale. Alors je sais, on s'éloigne un peu du support papier ici. Et on s'éloigne donc un peu du livre. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on ne peut pas se passer des histoires. L'art du récit et du storytelling est omniprésent dans notre société. Et même ce podcast est une histoire. Une origine à laquelle se rattacher et qui lui donne sa raison d'être. Mais l'histoire de la zone, je compte bien la faire évoluer. D'ailleurs, si vous faites aussi du podcast ou que vous êtes généralement intéressé par l'art du storytelling, l'une des bibles en la matière est l'essai graphique Out on the Wire de Jessica Abel. Elle rencontre plusieurs grands noms de la radio et du podcast, notamment américains, pour connaître tous leurs secrets de narration. C'est un essai qui se concentre certes sur la création sonore, mais en fait il se concentre plus sur l'oralité, sur le fait de raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et qu'il peut parler en fait à tout le monde. Nous avons tous et toutes un conteur ou une conteuse à l'intérieur de nous. Parce qu'on a tous quelque chose à raconter, même si on n'a pas encore trouvé comment le faire. C'est aussi pour ça que les livres existent. Et c'est là aussi que la créativité entre en jeu. Allier l'art de la narration à la créativité qui sommeille en nous peut donner naissance à des œuvres uniques, qui vous ressemblent et qui rassemblent. Alors, quelle histoire vous vous apprêtez à raconter ? Voilà, c'est la fin de cet épisode du Book Club un peu particulier. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé utile, informatif, ou tout simplement que vous avez apprécié plonger dans vos souvenirs de contes et de récits d'enfance avec moi. On peut échanger sur Instagram à la Zone Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour en apprendre plus sur la créativité et avoir d'autres recommandations culturelles inédites. Le lien est en description de l'épisode. Et enfin, partagez le podcast autour de vous et faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche de nouveaux mondes à découvrir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.